Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 3, scène 1. Quoique Pierre eût une foi absolue dans les vérités que lui avait révélées le bienfaiteur, et malgré la joie profonde qu'il avait ressentie pendant les premiers mois de son apprentissage, lorsqu'il se livrait avec un réel enthousiasme au travail de sa régénération intérieure, et malgré tous ses efforts pour y persévérer, cette nouvelle existence perdit subitement pour lui tout son charme après les fiançailles du prince André et la mort de Bazdeïev, arrivés à la même époque. Il ne lui en resta plus que le squelette, c'est-à-dire sa maison, sa femme, plus que jamais en faveur auprès d'un grand personnage, ses nombreuses et peu intéressantes connaissances, et le service avec son cortège d'ennuyeuses formalités. Aussi fut-il saisi d'un profond dégoût en pensant à sa vie. Il interrompit son journal, évita la société de ses frères, reparut au club, recommença à boire et à mener la vie de garçon, et fit tant parler de lui que la comtesse Hélène se vit obligée de lui adresser de sévères reproches. Pierre lui donna raison en tout point et se réfugia à Moscou pour ne pas la compromettre par sa conduite. Lorsqu'il se retrouva dans son immense hôtel, avec ses cousines, les princesses, qui séchaient sur pied et tournaient à la momie, avec sa nombreuse domesticité qui grouillait dans tous les coins, lorsqu'il aperçut la chapelle de la Vierge d'Iverskaya, rayonnante de lumière des mille cierges, qui brûlait dévotement devant les saintes images enchâssées d'or et d'argent, lorsqu'il eut traversé la grande place du Kremlin, couverte d'un tapis de neige immaculée, qu'il eut revu les izvoschtchiki et les boutiques du Kitaï-Gorod, les vieux et les vieilles de Moscou vivotant doucement dans leur coin, sans rien désirer, et qu'il eût pris part de nouveau aux bals et aux dîners du club anglais, alors il se sentit enfin arrivé au port. Moscou, en lui rendant son chez-lui et sa maison, lui fit éprouver cette sensation de bien-être qu'on ressent lorsque, après une journée de fatigue, on passe avec bonheur une bonne vieille robe de chambre bien chaude, bien commode, voire même un peu graisseuse. Toute la société, les vieux et les jeunes, le reçurent à bras ouverts. Sa place restée vacante l'attendait. Il n'avait qu'à la reprendre, car, aux yeux de tous ces braves gens, Pierre était le meilleur enfant du monde, l'original le plus gai et le plus intelligent, le vrai type du grand seigneur de Moscou d'autrefois, distrait, bienveillant, et la bourse toujours à sec, parce que chacun y puisait sans scrupule. Les représentations données au bénéfice d'artistes sans talent, les croûtes et les statues des rapins du dernier ordre, les œuvres de bienfaisance, les chœurs de bohémiens, les souscriptions pour des dîners, les réunions de francs-maçons, les quêtes pour les églises, la publication d'ouvrages de prix, tout cela trouvait accueil auprès de lui. Il ne savait jamais refuser et se serait complètement dévalisé de ses propres mains si, pour son bonheur, deux de ses amis auxquels il avait prêté une très forte somme ne l'eussent pris en tutelle. Au club, pas de dîner, pas de soirée sans lui. À peine venait-il d'étendre son grand corps sur un des larges divans, après avoir vidé deux bouteilles de Château Margaux, qu'il se voyait entouré d'un cercle nombreux qui le choyait, riait et causait autour de lui. Si la conversation dégénérait en dispute, son bon sourire et une bienveillante plaisanterie, dites à propos, ramenaient la paix. S'il n'était pas là, toute réunion maçonnique même était triste et morose. Au bal, lorsque les cavaliers faisaient défaut, on venait le choisir, et il dansait. Jeunes femmes et jeunes filles l'aimaient, parce que, sans témoigner une attention particulière à aucune d'elles, il était aimable avec toutes. « Il est charmant, » disait-on de lui, « il n'a pas de sexe. » Comme il aurait pleuré sur lui-même si, 7 ans auparavant, à son arrivée de l'étranger, on lui eût dit qu'il n'avait besoin ni de rien chercher, ni de rien inventer, que sa route était toute tracée, sa destinée toute marquée, et qu'en dépit de tous ses efforts, il ne deviendrait pas meilleur que la plupart de ceux qui se seraient trouvés dans sa position. Certes, il ne l'aurait pas cru. N'était-ce donc pas lui qui avait désiré avec ardeur voir la Russie en république, qui avait souhaité devenir philosophe tacticien, qui avait regretté de ne pas être Napoléon ou l'homme qui le vaincrait? N'était-ce donc pas lui qui avait cru possible la régénération de l'humanité et travaillé à atteindre le degré le plus élevé du perfectionnement moral? N'était-ce donc pas lui qui avait créé des écoles, ouvert des hôpitaux et donné la liberté à ses paysans? Et de fait, qu'était-il devenu? Le possesseur d'une grande fortune, le mari d'une femme infidèle, un chambellan en retraite, un membre du club anglais et l'enfant gâté de la société de Moscou. Un homme qui aimait surtout à bien manger et à bien boire, et qui se donnait parfois le plaisir de critiquer le gouvernement, bien à son aise, après dîner. Il fut longtemps avant de se faire à la pensée qu'il était, ni plus ni moins, le type accompli du chambellan en retraite, vivant sans but et sans souci, ce type qu'il avait en si grand mépris 7 ans auparavant, et dont Moscou offrait de nombreux spécimens. Il cherchait parfois à se consoler, en se disant que ce genre de vie ne durerait pas, mais l'instant d'après, il passait en revue avec terreur tous les gens de sa connaissance qui, entrés comme lui dans cette existence du club, avec toutes leurs dents et tous leurs cheveux, en étaient sortis sans cheveux et sans dents. Parfois, aussi, il tâchait de se persuader par orgueil qu'il ne ressemblait en rien à ces chambellans qu'il méprisait, à ces personnages bêtes, incolores et satisfaits d'eux-mêmes.
« La preuve,
se disait-il,
c'est que moi, je suis mécontent, toujours tourmenté du désir de faire quelque chose pour le bien de l'humanité. Qui sait ?»
ajoutait-il ensuite avec humilité.
« N'ont-ils pas, eux aussi, cherché, tout comme moi, à se frayer une nouvelle route dans la vie? Et la force des choses, du milieu qui les entourait, des éléments contre lesquels l'homme est impuissant à lutter, ne les a-t-elle pas amenés là où elle m'a amené moi-même ?»
À force de raisonnements de ce genre, il avait fini, après quelques mois de séjour à Moscou, par ne plus mépriser, mais au contraire, par aimer, respecter et plaindre, tout comme il se plaignait lui-même, le sort de ses compagnons d'infortune. Pierre n'avait plus d'accès de désespoir ni de dégoût de la vie, mais le mal dont il souffrait et qu'il refoulait vainement à l'intérieur le travaillait toujours.
Quel est le but de l'existence? Pourquoi vit-on? Que fait-on en ce monde?
Se demandait-il avec stupeur 1000 fois par jour. Mais, sachant par expérience que ces questions resteraient sans réponse, il s'en détournait au plus vite en prenant un livre, ou il courait au club, ou chez un de ses amis, pour y récolter les petites nouvelles du jour.
« Ma femme,
se disait-il,
qui n'a jamais aimé autre chose que son beau corps et qui est une des plus sottes créatures que je connaisse, passe pour avoir de l'esprit comme personne, et tous se prosternent devant elle. Bonaparte, bafoué alors qu'il était un grand homme, et pressé par l'empereur François, maintenant qu'il n'est plus qu'un misérable comédien, de vouloir bien accepter la main de sa fille. Les Espagnols remercient la Providence, par l'entremise du clergé catholique, de la victoire remportée le 14 juin sur les Français. Les Français, de leur côté, la remercient, toujours par l'entremise de ce même clergé, de la victoire remportée par eux à cette même date sur les Espagnols. Mes frères, les francs-maçons, prêtent serment de tout sacrifier pour le prochain et refusent un rouble à la quête. Astrée intrigue contre les chercheurs de la manne céleste, et l'on se met en quatre pour obtenir la charte de la loge d'Écosse, dont personne n'a besoin et dont personne ne comprend le sens, pas même celui qui l'a écrite. Nous nous disons tous disciples de l'Évangile, nous proclamons l'oubli des injures, l'amour du prochain, Et comme preuve à l'appui, nous élevons 40 fois 40 églises à Moscou. Tandis qu'hier, on a fouetté un déserteur. Et le représentant de la foi divine d'amour et de pardon donne à baiser la croix aux condamnés avant le supplice.
Ainsi songeait Pierre. Et cette hypocrisie perpétuelle, cette hypocrisie professée et acceptée par tous, l'indignait chaque fois comme un fait nouveau.
« Je la sens, je la vois »,
se disait-il encore.
« Mais comment leur en expliquer la puissance ? Je l'ai essayé en vain. Je me suis convaincu qu'ils s'en rendaient compte comme moi, mais qu'ils s'aveuglaient volontairement. Donc, cela doit être ainsi. Mais moi, que dois-je faire ? Que vais-je devenir ?»
Comme beaucoup de gens, comme beaucoup de ses compatriotes surtout, il avait le triste privilège de croire au bien et en même temps de voir si distinctement le mal qu'il ne lui restait plus la force nécessaire pour prendre une part active dans la lutte. Ce mensonge continuel qu'il retrouvait dans tout travail à entreprendre paralysait son activité. Et cependant, il fallait vivre et s'occuper quand même. Se sentir obsédé par ces questions vitales sans parvenir à les résoudre, cela lui était si pénible qu'il se plongeait, pour les oublier, dans toutes les distractions imaginables. Il dévorait des livres par douzaines et lisait tout ce qui lui tombait sous la main, même lorsque son valet de chambre l'aidait le soir à se déshabiller. Il allait ainsi de la veille au sommeil, pour se livrer de nouveau le lendemain aux oiseux bavardages des salons et des clubs et passer son temps entre les femmes et le vin. La boisson devenait de plus en plus pour lui un besoin physique, aussi bien que moral. Et il s'y adonnait avec passion, en dépit des avertissements des médecins, qui, vu sa corpulence, y trouvaient un danger sérieux pour sa santé. Il ne se sentait heureux et véritablement à son aise que lorsqu'il avait avalé plusieurs verres de spiritueux. La douce chaleur, la tendre bienveillance pour son prochain, qu'il éprouvait alors, le rendait capable de s'assimiler toute pensée sans toutefois l'approfondir. Alors seulement le nœud gordien si compliqué de la vie perdait à ses yeux son effrayant mystère et lui paraissait même facile à dénouer. Alors seulement il se disait
« Je le déferai, je t'expliquerai, tout à l'heure j'y penserai. »
Mais ce « tout à l'heure » ne venait jamais. Et il n'y repensait que pour voir de nouveau ces énigmes se dresser devant lui, plus terribles et plus insolubles que jamais, et il se hâtait de reprendre ses lectures pour chasser les pensées pénibles. Pierre se souvenait parfois d'avoir entendu raconter que les soldats exposés au feu de l'ennemi dans les retranchements s'ingéniaient à se créer une occupation quelconque afin d'oublier le danger. Il se disait que chacun faisait de même, que chacun, ayant peur de la vie, tâchait, comme ses soldats, de l'oublier, les uns avec l'ambition, la politique, le service de l'État, les autres avec les femmes, le jeu, le vin, les chevaux et la chasse.
Donc,
concluait-il,
rien n'est puéril et rien n'est important. Tout revient au même. Tâchons seulement de nous soustraire à l'implacable réalité et de ne jamais nous rencontrer face à face avec elle.